Nous continuons donc notre tour de table, on va dire, des différentes fédérations, au-delà de ce qui a été dit ce matin sur un positionnement plus politique. Mais ce que vous observez donc au niveau régional, et on va commencer de nouveau par Monsieur Verdeau. Donc vous êtes président régional de la FEAP, et vous allez quand même commencer par la maltraitance budgétaire, oui, de ce que vous observez.
Bonjour à tous. L'offre de soins diversifiée que proposent les associations, les fondations, les congrégations, les mutuelles, permet de prendre en charge la personne depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par toutes les étapes de la vie, que ce soit l'accident, la détresse, la maladie, le handicap. Et pourtant, dans cette période d'incertitude, de crise, de turbulence, nous sommes malmenés, nous sommes maltraités et nous sommes projetés dans un avenir qui peut paraître incertain. Alors, quelques exemples extrêmement précis. Pour nos établissements d'hospitalisation, par exemple, nos tarifs baissent en moyenne entre 1 et 3% en fonction de leur configuration. Alors que pendant ce temps, la masse salariale, les matières premières, l'énergie ne suivent pas la même baisse. Et très rapidement, l'effet de ciseaux que nous redoutons entre les charges et les recettes risque d'être dramatique. Je voudrais citer à ce sujet un de nos collègues très observateurs qui récemment disait « En ce moment, les gros maigrissent et les maigres périssent ». Alors, dans le secteur médico-social, l'exercice est également d'une très grande complexité, tant la campagne budgétaire 2011 est tendue. Les établissements pour personnes âgées dans notre région ont des tarifs d'hébergement qui stagnent, voire qui baissent, sous la pression de certains conseils généraux qui sont eux-mêmes dans une situation financière tendue. Pour les services de soins infirmiers à domicile, pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, dont les dépenses sont majoritairement des dépenses d'ordre de personnel, la symbolique augmentation budgétaire dans le cadre d'un budget global fermé que nous avons eu cette année va conduire inéluctablement à des réductions d'effectifs, voire à la fermeture de structures les plus fragiles, notamment celles qui sont dans l'arrière-pays ou dans les départements alpins.
Mais vous êtes aussi force de proposition, donc...
Oui. Mais en conséquence de tout ça, quand même, je voudrais terminer là-dessus, malgré tous les efforts qui sont déjà réalisés et qui ne sont pas récents, parce que la FEAP s'est toujours positionnée comme un interlocuteur privilégié et constructif, tant du ministère que des instances régionales, ces contraintes-là, de 2011 tout particulièrement, entraînent la perspective d'un exercice quasiment impossible à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle la FEAP interpelle d'une manière très solennelle les pouvoirs publics sur les dangers d'une telle situation, si toutefois elle devait persister. Alors, les préconisations. Dans ce contexte financier difficile, la FEAP estime que l'esprit de responsabilité qui est attendu des fédérations, toutes les fédérations et des gestionnaires, suppose une parfaite transparence de la part des administrations centrales sur les études économiques et budgétaires qu'elles conduisent. Mais pour autant, et j'ai maintenant derrière moi un certain nombre d'années d'observation du système, et on s'aperçoit qu'à chaque réforme, on utilise les mêmes arguments. Le système de santé français est le meilleur du monde. Il faut le préserver, mais attention, il coûte cher et par conséquent, il faut rechercher l'efficience. On peut penser que dans 10 ans, nous aurons connu encore bien d'autres réformes qui diront les mêmes choses. Il faut améliorer l'espérance de vie en bonne santé, il faut promouvoir l'égalité, développer un système de santé accessible et efficient, etc. Je ne crois pas que nous puissions garder longtemps un système d'assurance maladie qui, chaque fois qu'il y a une crise de recettes, se tourne vers une diminution des dépenses. On ne pourra pas continuer à augmenter les prélèvements et diminuer les remboursements. Un tel système ne serait plus viable à terme. Et c'est bien une politique sanitaire et médico-sociale plus générale qui reste à revisiter. Et j'ai entendu ce matin le président Dominique Balmary qui évoquait la perspective d'une révision générale des politiques sociales Et ce sont bien les règles du jeu, effectivement, qui, à notre sens, doivent être changées. Alors, en attendant, que faire? Parce que là, maintenant, que faire? Nous sommes contraints par des limites budgétaires extrêmement fortes. Alors, je dois vous dire que je ne dispose, hélas, pas d'un remède miracle pour survivre dans un tel contexte. Mais on peut penser que pour nos établissements, nos services, la solitude et le repli sur soi seraient des plus catastrophiques. Nous savons que nos structures ne pourront rester seules trop longtemps, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales. Et il paraît indispensable de rompre l'isolement pour être plus visible, pour être plus fort et donc pour être moins vulnérable, en tout cas dans un premier temps. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la taille d'un établissement, c'est l'activité, l'innovation, la capacité à pousser les cloisons qui fait que l'on sera un partenaire respectable et respecté. La taille pourrait être presque un faux problème. C'est la capacité à travailler ensemble qui est importante. Tel ou tel établissement peut disposer d'une faible capacité, mais être fort s'il est dans un regroupement avec d'autres, il peut être irremplaçable dans la place et le rôle qu'il détient au sein de ce regroupement. J'ai envie de dire qu'il nous faut nous reconnaître, nous parler, et travailler ensemble et surtout utiliser, me semble-t-il, le nouveau champ de compétences de l'ARS, des ARS, pour favoriser le rapprochement entre les secteurs, entre les institutions, mais aussi entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Mais déjà, quelques collègues l'ont évoqué, Madame Rifarolke le rappelait récemment, et cela au sein de territoires nouvellement définis. Et bien entendu, pourrais-je rajouter, avec les accompagnements financiers qui peuvent aller avec. En tout cas, c'est dans ce contexte que la FEAP invite ses adhérents à se positionner afin de maintenir notre ultime objectif, qui est d'améliorer de manière continue la prise en charge de l'accessibilité, qu'elle soit financière, géographique et technique. Et en tout cas, aujourd'hui, je vois que c'est un très bel exemple de ce que peut faire le secteur privé non lucratif uni. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Verdeau.